carcérale contre toutes les formes d'emprisonnement, des prisons, de tout ce qui nous enferme. En direct sur Radio Galère, le dimanche soir de 19h à 20h. Donc, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, on est là. On vous donne le numéro pour appeler à l'antenne, c'est le 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Si vous voulez nous écrire, on vous laisse notre adresse. Bon, l'adresse de la radio, c'est Radio Galère. Donc, nous sommes là à courte échelle. Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Donc, Radio Galère, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Voilà. Et si vous voulez nous écrire des mails, l'adresse mail est la-courte-échelle@reza.net. Donc la-courte-échelle@reza.net. Donc on est là. Moi c'est Inni. Salut.
Coucou. Et,
coucou.
Il voilà. Bon, y a Liane aussi.
Il y a Liane avec nous.
Et il y a Tom.
Voilà.
Bonsoir. On est trois ce soir dans les studios.
On est trois. Ça va la chaleur. Bon, je sais qu'en tôle, la chaleur, ça ne va pas. Encore plus que dehors. Donc, on voulait vous parler de conditions un peu compliquées dans les QPR pour commencer cette émission. Alors, les QPR sont les quartiers de prévention de la radicalisation. Ce sont des quartiers dont sont enfermés des personnes, des prisonniers considérés comme, par l'administration pénitentiaire comme radicalisés. C'est des personnes qui peuvent être enfermées dans ces quartiers pour 6 mois, et c'est au ministre la décision vraiment de les enfermer, et cette décision peut être renouvelée à l'infini. Donc ils sont des personnes enfermées, des personnes qui sont considérées comme radicalisées, voilà, pour différentes raisons, radicalisées religieuses ou radicalisées comme personne qui lutte politiquement. Il existe depuis 2018 en France, et ce sont des quartiers où les conditions sont très très dures. Il y a un isolement, bon, les prisonniers peuvent se voir souvent entre eux, pas avec les autres prisonnières. Ils sont soumis à des fouilles vraiment très souvent, et aussi des fouilles horribles.
Des fouilles à nu.
Des fouilles à nu, sans être prévenus, oui. Et ils n'ont pas la possibilité d'accéder au travail. Et ils doivent suivre un soi-disant programme de déradicalisation. Voilà. Donc, du coup, on voulait vous lire un témoignage d'une personne qui est au QPR.
Ouais.
Et après, on va en reparler, en vous dire un peu plus dans le détail qu'est-ce que ça veut dire être au QPR.
Oui, carrément, on a vu passer le communiqué sur l'envolée. Par rapport à la situation de Salim A, qui subit des traitements dégradants à la prison de la santé. Et du coup, on se propose ce soir de faire la lecture de ce communiqué et de parler de la situation de Salim. Si ça va, je commence la lecture et on essaye de la lire à plusieurs voix, histoire que ce soit le plus dynamique possible.
Allez.
Allez. Salim A a été transféré au quartier de prise en charge de la radicalisation, QPR, de la santé en janvier 2026. Ce sont des unités pénitentiaires spécialement conçues pour enfermer les détenus condamnés pour terrorisme ou désignés comme radicalisés, afin de les séparer des autres prisonniers, au moyen de cellules individuelles, de promenades dédiées et de parloirs séparés. La décision du placement en QPR, en quartier d'isolement ou en détention normale, est prise au terme d'un passage de 17 semaines au quartier d'évaluation de la radicalité. Salim a été envoyé au quartier d'évaluation de la radicalité de Vendin-le-Veil en 2021 parce qu'il refusait catégoriquement de rencontrer le binôme de soutien. Le binôme de soutien, c'est un éducateur et un psychologue censé évaluer la radicalisation des prisonniers. En effet, puisqu'il a été condamné pour des faits de droit commun, l'administration pénitentiaire n'avait d'autre motif de le lui proposer que la longueur de sa barbe, qui n'a jamais varié. Musulman pratiquant, la religion lui a permis de tenir le coup en détention, mais il ne s'est pas tourné vers l'islam radical pour autant. Pour contester l'étiquette qu'on lui collait d'office, Salim a continué à refuser tout entretien avec les experts, les psychologues et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les différentes unités où il a été placé. Depuis son passage au QER, Il subit un traitement particulièrement dégradant, notamment du fait des fouilles systématiques, alors qu'il n'est plus DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement signalé. Il est fouillé à chaque mouvement, palpé chaque fois qu'il remonte de promenade, et fouillé à nu après tout contact avec l'extérieur.
Après le quartier d'évaluation de la radicalisation, Salim A a été placé à l'isolement de 2021 à 2024, puis affecté en détention normale jusqu'en 2026. Lorsqu'il a été placé au QPR de la santé, donc quartier de prise en charge de la radicalisation, il a d'abord été seul en promenade, et c'était pour lui un moment essentiel, l'occasion de pratiquer une activité sportive et de marcher pour supporter les 23 heures qu'il passe chaque jour en cellule. Jusqu'au moment où l'administration lui a imposé la présence d'un autre prisonnier. Sa demande d'être seul en promenade n'est ni un caprice ni un rejet des règles de l'établissement, mais un choix mûrement réfléchi. Il préfère rester à l'écart parce qu'il sait d'expérience que l'administration pénitentiaire prend prétexte des moindres interactions entre prisonniers pour leur coller des étiquettes qui les suivent jusqu'au bout de leur peine. Après avoir demandé par courrier à être seul en promenade, il est resté 2 semaines sans y aller. Un jour, il a voulu redescendre en promenade, mais quand il a vu qu'on le remettait avec l'autre prisonnier, il est remonté en cellule sans autorisation. Ça lui a valu un compte rendu d'incident, un CRI, qui s'est soldé par une peine de 10 jours de quartier disciplinaire. QD, enfin c'est le mitard quoi. Depuis qu'il y a été placé le 21 mai, il refuse d'en sortir, exige son transfert et sa sortie du QPR. Ça fait donc 3 semaines qu'il est au mitard de la santé, dans des conditions de détention particulièrement dégradantes et déshumanisantes. Il n'a reçu qu'une paire de couverts jetables en bois à son arrivée au mitard. Avec la chaleur et la saleté, ils pourrissent. Ses rations de nourriture sont réduites. Comme il n'y avait pas de robinet dans sa cellule, il a longtemps été obligé de boire à même la douche, jusqu'à ce qu'on finisse par lui en installer un récemment, après force réclamation. Il n'a accès à des vêtements propres qu'une fois par semaine, au parloir. Du fait de son placement à l'isolement, ses parloirs sont limités à 45 minutes par semaine, sans accès aux salons familiaux, alors que sa famille fait des centaines de kilomètres pour venir le voir toutes les semaines. Il est arrivé à plusieurs reprises que les surveillants l'appellent pour le parloir et pour la promenade en même temps, ce qui l'oblige à choisir entre les deux. Son dernier sac de linge a été refusé pour des motifs totalement arbitraires. Une housse d'oreiller jugée non réglementaire, alors que c'est celle de sa cellule, avec l'étiquette de la santé. Il a entendu l'officier du QPR dire à son collègue, derrière la porte, « Il veut rester au QD, faites-lui de la totale. »
Son placement en QPR vient d'être renouvelé pour 6 mois, bien que l'administration pénitentiaire reconnaisse qu'elle ne sait rien du rapport délié de Salim à l'islam. Elle lui ordonne de répondre aux divers experts du QPR, sans quoi il serait placé à l'isolement. Salim A demande son transfert en centrale conformément à son statut de prisonnière longue peine afin de pouvoir bénéficier de parloir en unité de vie familiale et sa sortie du QPR. Il exige que l'administration pénitentiaire cesse de l'étiqueter comme un radicalisé et qu'il soit mis au terme aux traitements dégradants et aux conditions de détention déshumanisantes qu'il subit au mitard de la santé. Paris, le 22 juin 2026. Donc, si vous voulez soutenir Salim A, contactez la prison de la santé. Le numéro de téléphone est 01 86 21 80 20. 01 86 21 81 pour les harceler, pour lui demander des comptes sur cette situation. Ou bien, on peut le réécrire au 42 rue de la santé, 65 75 67 4, Paris. CEDEX 14, donc 42 rue de la Santé, 75 67 4, Paris CEDEX 14. Voilà, donc on peut lui écrire des lettres pour dire qu'on sait, on connaît et c'est pas correct.
Mais en vrai, le truc d'éviter les contacts avec les autres prisonniers pour pas être considéré comme effectivement radicalisé parce qu'il interagit avec d'autres prisonniers, en vrai, c'est une peur qui est totalement fondée puisque c'est même écrit, enfin, on en a parlé il y a 2 semaines dans la loi Rodwell. Par exemple, c'était déjà une pratique qui avait lieu de considérer que si tu parles avec des détenus qui sont condamnés pour terrorisme, on va te considérer comme. Enfin, t'es automatiquement fiché S et on va te surveiller plus et te considérer que t'es sans doute peut-être en train d'être convaincu. Et même ce que disait la loi Rodwell, c'est qu'il y a des cas où on va faire entrer dans le statut terroriste des personnes qui ont été condamnées pour des faits de droit commun, mais dont on estime qu'elles seront, qu'elles se sont radicalisées en détention, et pour lesquelles, je ne sais plus si c'était... ça concernait l'injonction de soins psychiatriques ou même la rétention de sûreté, mais en tout cas, voilà, il est écrit dans la loi que la loi elle considère que il faut que la prison ait une vigilance sur les personnes qui deviennent terroristes en détention, qui se radicalisent en détention, et qui du coup ils peuvent avoir des conséquences sur la manière dont la prison les considère de ce fait là, et donc c'est tout à fait logique de sa part de se méfier de l'intention que l'AP va projeter sur lui. Sachant que j'ai l'impression qu'avec le terrorisme, c'est vraiment un schéma de pensée qui est hyper propice à suspecter très rapidement et à fantasmer un peu genre le terrorisme. Enfin, y a des actes de terrorisme qui ont existé en France, en effet, la terreur. Elle est tellement intégrée dans la manière qu'a le gouvernement d'aborder ce problème-là et de diaboliser et de créer du fantasme autour de cet ennemi intérieur partout, qu'au final, c'est pas étonnant non plus qu'il y ait d'autres profils qui soient juste musulmans et que par islamophobie, on associe à cette menace fantasmée. Parce qu'en vrai, c'est dans le logiciel idéologique de considérer le terrorisme du point de vue de l'État. Mmh. Je sais pas si c'était clair, mais...
Ah ouais. Surtout, mais voilà, bien dit.
Je sais pas si c'est bien dit.
Moi, si, c'était large compréhensible, quoi. Et après, c'est toujours pareil, quoi. C'est aussi encore d'autres règles au sein de la prison. Enfin, il y a un nouveau les quartiers de prévention, là. Enfin, si on peut appeler ça de prévention. Enfin, j'ai pas bien retenu l'acronyme.
Prise
en charge, voilà. Enfin, pareil, ça refait de l'arbitraire. Enfin, la prison est déjà un monde régi par l'arbitraire des règles de l'administration pénitentiaire et de comment les matons décident de l'appliquer. Et en plus, là, il y aura à nouveau, c'est encore d'autres règles et du coup, il y a encore plus d'arbitraire. Enfin, je trouve que c'est toujours spécifier aussi tes conditions de détention selon ce que tu as fait ou ce qu'on suppose que tu as fait. Enfin, bref, c'est toujours encore plus, toujours plus d'arbitraire. J'ai pas d'autres mots désolé.
Oui, il y a plein de trucs qui sont, enfin, des plein de dingueries qui sont dites dans le témoignage. Par exemple, celle de proposer en même temps la promenade et le parloir, c'est infâme. Enfin, voilà, tout le témoignage le dit, mais.
Ouais, et puis ça fait d'autres menaces en plus, quoi. Enfin, un peu un truc de, c'est de l'isolement sans que ce soit vraiment le quartier d'isolement, sans que ce soit le cachot, quoi. Enfin, du coup, il y a un truc où pareil, en fait, en fonction de qui tu discutes, tu peux avoir la menace. Ou si t'es musulman et que tu refuses de répondre aux questions qu'on te pose, du coup, on peut te faire la menace de dire « Ok, vas-y, tu vas aller occuper, du coup, plus à l'isolement, ou est-ce que tu auras des fouilles systématiques, ou est-ce que tu vas pas avoir accès aux UVF ?» Bref, il y a tout un tas de droits qui passent à la trappe. Ton courrier va être bien plus lu, ça va être bien plus galère pour que tu puisses écrire aux proches ou à d'autres personnes qui te connaissent pas.
Ouais, et surtout parce qu'il disait aussi que cette étiquette de personne radicalisée a été collée quand il est arrivé parce qu'il refusait de voir un éducateur. Mm-hmm. Donc parce qu'il a pris des positions en fait. Donc du coup, on sait qu'à l'administration pénitentiaire n'aime pas si on prend des positions. Donc du coup, c'est sa façon de détruire aussi les personnes qui osent dire non, moi je veux pas.
Ouais.
Et le fait qu'il soit personne qui a des religions musulmans, ça, voilà, ils ont pris ça, ils ont collé cette étiquette.
Ouais, c'est un peu un truc de fou ce retournement de l'État. Il appelle terrorisme des actes dont il estime que c'est des personnes qui font des actes violents et qui ont une volonté de politique derrière et de faire peur à la population générale. Parce qu'en fait, la personne qui propage le plus la peur, là, en vrai, c'est l'État lui-même qui stresse sur tous les individus. Panique, fantasme, une menace hyper fort en joue pour faire passer des politiques sécuritaires. En vrai, il est tellement le relais de cette dynamique là, genre en vrai, et qui du coup, il se fait peur tout seul et du coup, il va brasser beaucoup trop large. Enfin, bon, dans tous les cas, c'est trop large, mais il va brasser plein de profils qui ont rien à voir par parano de ce sujet, quoi. Parce qu'il fantasme l'ennemi.
Et voilà. Donc. Donc, du coup, pour continuer sur la question des QPR, il y a des autres prisonniers qui poursuivent un loot dont on a déjà parlé ici à l'antenne. Et on voulait un peu reprendre cette lutte et reprendre leurs mots et leurs revendications parce qu'on estime que c'est important. Bah, après, le témoignage de Salim, on voit comment les conditions dans les QPR sont de la merde partout en France. Donc on vous reprend la lutte des prisonniers occupés à Aix-Luin et on va lire un peu. En fait, il y a quelques semaines, bon, le 14 avril, un prisonnier qui était occupé a été convoqué pour un entretien devant une commission disciplinaire. On lui rapproche d'avoir émis en surveillant un courrier de contestation destiné à la direction sur des conditions de détention. Donc la direction de la prison a reçu le même courrier de la part de 8 autres prisonniers, tous incarcérés au QPR. Ces prisonniers ont dénoncé leurs conditions de détention inhumaines et fait remonter à la liste de 9 revendications. Donc les revendications sont pouvoir effectuer une promenade d'une heure à l'air libre. Donc voilà, c'est la base vraiment de la base. Arrêt des fouilles à nu intégrales systématiques et pouvoir garder leurs sous-vêtements durant celle-ci. Mettre à disposition un registre pour les matins de nuit pour répondre au réclamage des allumages abusifs. Avoir accès au jardin potager sous forme de promenade en groupe le week-end. Mettre une fenêtre ou la clim dans la salle de sport. Déjà, quand même, des conditions horribles. Reprise des activités sportives dans les gymnases, une ou deux fois par mois. Arrêt des renouvellements systématiques du placement en QPR et un vrai examen de dossier. Réparer les matériels de la salle de visioconférence. Enlever les barreaux dans la cour de promenade qui empêchent de voir les ciels.
Un premier mouvement collectif a eu lieu en septembre 2025 avec une grève des activités de la part des prisonniers. La direction a alors proposé une réunion en octobre 2025 à laquelle ont participé 3 prisonniers représentant du QPR et l'administration pénitentiaire. Suite à ça, les prisonniers ont repris les activités de dite déradicalisation, mais il n'y a eu aucun changement réel de la part de la paix. Les promesses de la paix sont donc restées lettres mortes, comme on pouvait s'y attendre de la part de cette administration. Les prisonniers ont donc envoyé un courrier groupé en avril et ont refusé l'entretien des cellules et des activités. Ces comportements ont été considérés comme une faute disciplinaire et selon la paix, j'ouvrais les guillemets, participent ou tentent de participer à une action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou en perturber l'ordre. Fermez les guillemets. 8 personnes sur 9 ont donc été condamnées à des peines allant de l'avertissement à 8 jours d'isolement. Et cela sans aucune réponse à leur demande.
La répression mise en acte par la paix contre ces prisonniers est très grave. Elle vise à mater toute forme de mouvement collectif à l'intérieur, notamment face à des conditions d'enfermement de plus en plus dures et arbitraires. Cette répression se fait encore plus violente dans ces quartiers punitifs, qui sont des prisons dans la prison. Ils servent à isoler, surveiller, réprimer, torturer. Ils font toujours planer la menace du pire, et où l'arbitraire est la loi. C'est le cas aussi des QLCO, quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les soi-disant plus grands criminels de France ont été transférés à partir de juillet 2025 à Vendin-le-Vieil. Premier QLCO. Quelques mois plus tard, un second QLCO va raconter sur Sarthe. Les modalités de placement dans ce régime d'isolement total sont extrêmement floues puisque c'est Darmanin, le ministre de la Justice, et lui seul qui a le pouvoir de placer les prisonniers dans les QLCO, sans que l'on sache sur quels critères objectifs ils se basent. Ici, les prisonniers sont soumis à des conditions matérielles extrêmes qui provoquent stress, dépression chronique, angoisse, en plus des problèmes de santé, la privation de tout lien avec l'extérieur et la violence systémique de ces mesures ont pour objectif de les pousser à bout et leur arracher les aveux.
Face à cette violence d'État, les prisonniers du QLCO de Vendin-le-Vieil n'ont pas attendu longtemps pour exprimer de différentes manières leur révolte. Grève de la faim, protestation par inondation des cellules et des couloirs, revendications, des luttes pour dénoncer l'opacité des procédures, les traitements inhumains, les difficultés qui vivent leurs proches. Contre l'isolement et les silences que l'État voudrait imposer à cette prisonnière, il est important de relayer leurs paroles et faire sortir leurs revendications pour un monde sans prison.
Bah, c'est vrai que là, tout à l'heure, on a lu un témoignage d'une personne qui trouve que son placement en QPR est abusif et que c'est intéressant d'analyser ça pour comprendre comment marche la... la prison et les statuts qu'elle donne, et que des fois ça n'a pas de sens, mais bon, on est clair que même pour le pire des terroristes, on est contre la prison, et même si les actes ont été avérés, genre, quelles que soient les personnes occupées, on ne pense pas que la prison soit une solution, même pour ces profils-là. Et que là, du coup, là, on voit vraiment, je trouve que la logique de la prison, elle est assez criante dans cette situation-là. On n'a qu'à voir leurs revendications, qui sont vraiment le strict minimum de la survie, pour capter que genre, ce QPR-là, cette forme d'enfermement, c'est pas juste pour, on pourrait dire, pour les empêcher de nuire. Là, c'est vraiment leur faire mal. C'est vraiment de la torture, en fait.
Un objectif de vengeance, quoi.
C'est la pire incarnation de ce que l'État déteste. Et du coup, ils les font morfler. Et ça sert à rien à part les faire souffrir, eux. C'est ça la prison, et c'est ça le QPR.
Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, et ce signe dinguerie de voir que c'est quoi les méthodes, les moyens de lutte, qu'est-ce que tu peux, quand t'es en prison, quand t'es enfermé, c'est quoi tes moyens pour te faire entendre vis-à-vis de l'administration ou à l'extérieur? En vrai, il n'y a pas non plus 50 possibilités, et très souvent ça passe par des refus de gamelles, ça passe par refus des activités, refuser de remonter de promenade, ou refuser de ressortir de sa cellule, ça peut aller des fois jusqu'à des grèves de la faim, et que là, en fait, c'est les techniques employées par les personnes enfermées à l'UIN, et que ces techniques de lutte, de résistance, en fait, c'est considéré comme mise en danger de l'établissement pénitentiaire ou de la sûreté de l'établissement pénitentiaire. Et donc, du coup, tu passes au prétoire, et ça va de l'avertissement à 8 jours d'isolement. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, la répression sur les outils qui peuvent servir à lutter. Enfin...
C'est vrai que là, on est sur courrier groupé, refus de l'entretien de la cellule et des activités.
Ouais. Entretien de la cellule, enfin, en plus, qui vit dans la cellule, enfin, ouais. Les prisonniers eux-mêmes, du coup. Enfin,
les activités, c'est aussi à leur bénéfice, genre, et un courrier, quoi.
Oui, surtout, la démarche aussi était assez claire, était assez cadrée. On a des revendications, on remet un courrier, sachant que s'ils avaient essayé de demander les mêmes choses en 2025, l'API les avait convoqués en réunion. Il y avait 3 détenus qui étaient au QPR. Et l'API avait dit, bah oui, bien sûr, vous voulez ça, on vous donnera ça, quoi. Oui, oui. Et parce que vraiment, la démarche était assez, assez fluide, assez
régulière.
Régulière. Il n'y avait rien de, soi-disant, mise en danger, ou sans utiliser les mots de la paix et tout ça. Mais et après, rien n'était fait. Donc, du coup, un autre courrier a été envoyé. Donc, il y avait, comme on disait tout à l'heure, ils ont utilisé les seules choses qu'on peut faire en taux, les seuls moyens de se faire entendre, de demander des choses. Et rien n'était fait. Et après, d'être accusé de mise en danger et tout ça, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule.
Et du coup, si on enchaîne à propos de moyens de lutte dans les prisons, je sais pas si on avait d'autres choses à dire sur le QPR là. Mais à propos des moyens d'action qui sont souvent des refus de quelque chose, des refus d'activité collectif, il y a eu aussi non pas du tout dans un QPR, dans une maison d'arrêt de détention normale à Carcassonne, il y a quelques temps, on n'avait pas encore parlé, mais le 20 juin, du coup, il y a 20 jours environ, il y a eu un refus de remontée de promenade de la part des prisonniers de la maison d'arrêt. Donc, c'était une trentaine à avoir refusé de retourner en cellule dans la maison d'arrêt de Carcassonne. Et c'est pour des raisons assez classiques. J'ai l'impression qu'avec la canicule, les conditions qui sont dégueulasses commencent à être encore plus rares que d'habitude. Et du coup, normal, ça commence à se défendre un peu. À Carcassonne, ils sont 3 voire 5 par cellule. Ils sont 164 dans une prison de 64 places. Du coup, ça fait beaucoup. Et donc, c'est avec quelques revendications, notamment aussi par rapport au cantinage. Donc voilà, force à eux. J'espère qu'ils ont pu négocier. Il y a les aristes qui sont venus pour les faire réintégrer leur cellule. Je sais pas sûr. Les articles que j'ai lus ne parlaient pas de heures, mais ils disaient plutôt que c'était très pacifique. Mais voilà. Force à toutes les personnes qui essayent de lutter avec les moyens qu'ils ont à l'intérieur pour se faire entendre un peu
de fou
dans ce contexte.
Et comme tu parlais de problèmes de cantinage, juste vite fait pour info, et après s'il y a des prisonniers ou des prisonnières qui nous écoutent et qui sont en Baumettes et qui ont envie de nous appeler, On peut rappeler le numéro, c'est le 04 91 08 28 10. Mais d'après les nouvelles qu'on a un peu glanées cette dernière semaine, là, en allant devant les baumettes et en discutant avec les proches, c'est que évidemment les ELSP sont toujours là et continuent à être cagoulés avec leurs chiens, à passer entre tout le monde et mettre un peu la pression avec une liste aussi des personnes qu'ils ont déjà chopées pour stup. Du coup, les fouilles sont renforcées pour ces personnes-là. Enfin bref, c'est assez particulier l'ambiance de traîner devant les baumettes avec ces matons, cagoulés. Vraiment, ils font un peu bader. Ça tend bien à cet endroit-là, ou juste devant l'entrée du parloir. Et bref, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais juste parler de, comme tu parlais des problèmes de cantine, où est-ce que en vrai, tout le monde nous a fait remonter en discutant un petit peu. Juste tout le monde nous a fait remonter qu'en vrai, tous ceux qui ont un peu d'argent, qui ont un peu d'argent sur leur pécule, demandent un ventilateur. Et en vrai, ça fait plus de 3 semaines qu'il y a plus de ventilateur disponible au baumette, et que du coup les gens ils attendent. Et on rappelle les fenêtres anti-bruit qui permet d'aérer ta cellule, même juste aujourd'hui, même quand on aère, en vrai il fait tellement chaud la nuit que ça change rien et tu crèves de chaud dans tous les cas dans la cellule. Mais bref, il y a du coup ces fenêtres anti-bruit qui empêchent juste d'avoir un peu accès à l'air, mais aussi du coup ça fait 3 semaines que là il n'y a plus aucun ventilateur de disponible et qui est transmis via la cantine.
Les fenêtres anti-bruit, voilà. Elles sont sur la MAF, donc sur le bâtiment femme, okay. Au deuxième et troisième étage.
Et pas au baumètre 3.
Ça, c'est pas... Bonne question. Faudrait demander. Ouais. Je sais pas.
Moi, j'ai l'impression qu'ils les avaient installés partout, quoi. Mais après, peut-être j'ai dit des conneries. Peut-être.
J'ai l'impression que le fait qu'ils les ont installés sur les endroits qui donnent sur les maisons en face, donc c'est-à-dire côté rue. Je sais pas si les baumètres 3, tout le mur est en face de propriétaires privés qui ne veulent pas entendre les gens vivre.
Ils sont plus proches des lotissements, ouais, mais après, je ne sais pas du tout si... Moi, j'aurais dit ça, mais...
À creuser.
Ouais, carrément. Creuser. On pourra demander la prochaine fois quoi, devant les parloirs ou si jamais il y a quelqu'un.
Allez-nous.
Voilà. On va continuer. Rappelez le numéro, c'est le 04 91 08 28 10. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez l'info.
Ouais, et force et courage parce que c'est vraiment compliqué avec la canicule.
De fou. Grave, on n'imagine même pas ce que c'est d'être enfermé à plusieurs dans 9 mètres carrés avec ces températures. C'est inhumain.
Sans ventilo.
On enchaîne sur quoi ? On met une petite musique ou... Allez, petite dédicace. Petite dédicace ?
Ouais, pour mon pote, pour son anniversaire.
Grave de fou. Et puis voilà, on va mettre du coup Triangle des Bermudes chargé. Ça faisait un petit moment. Allez. A tout de suite.
A tout de suite.
Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Triomphe des babilles. Triomphe des babilles. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Triomphe des babilles. Triomphe des babilles. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. J'suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes. Woo!
Et on est de retour sur Radio Galère 88.4, il me semble. C'est l'émission de la courte échelle contre tous les enfermements, tout petit d'enfermement. Voilà, comme chaque dimanche soir, on vient d'écouter Triangle des Bermudes, chargé.
Au cas où vous ne connaissez pas ce titre fou. Mystérieux, petite pépite découverte, dénichée de par nos...
On a été fouiller les internets pour trouver. On n'en est pas un peu fiers.
Una kika, comme on dirait, voilà, chez nous. Bon, du coup, on arrive à une bonne nouvelle après tout ça, une bonne nouvelle qui vient d'Italie. Et comme on a parlé de gens qui s'organisent et qui sont un peu à l'état terrorisme et tout ça, il y a eu une opération en Italie le 16 juin, dont 7 personnes dites anarchistes. Ils ont été arrêtés avec association, avec finalité de terrorisme. Il y a eu des perquisitions en toute Italie, dans des espaces coupés, dans des maisons de camarades. Il y a eu un espace social, un espace coupé, un espace de lutte qui a été,
expulsé.
Expulsé, ouais. Voilà, merci. Donc c'était des journées assez intenses et voilà, la bonne nouvelle c'est qu'il y a toujours toutes les personnes ont été libérées. Donc il y avait 5 personnes en tôle et 2 personnes assignées à domicile et voilà, donc toutes les personnes ont été libérées et l'accusation de association avec finalité subversive a été retiré, voilà, il n'y en a plus. Donc du coup, même pas un mois après, on voit comment les accusations étaient solides, comment l'État cherche toujours à trouver des monstres qui sont prêts à faire n'importe quoi pour lutter, pour mettre en péril la sécurité des citoyens et tout ça, parce qu'il y avait tout aussi une inondation d'articles sur les médias mainstream qui étaient horribles, vraiment, qui faisait des portraits de ces personnes comme des personnes très dangereuses, horribles, qui s'y retrouvaient dans des petites maisons et préparaient des attentats dans des parcs fréquentés par des familles. Genre, vraiment, c'était des articles immondes. Et là, presque un mois après, les accusations ont été retirées. Donc voilà, tous les camarades sont libres et l'espace a été réoccupé.
Tous
voilà. Tous, sauf deux qui faisaient pas partie des accusations initiales, mais qui sont été accusés suite à des perquisitions. Donc ils ont des autres accusations. Ils ont retrouvé du matériel leur domicile et donc ils essayent de lui imputer d'autres choses. Donc du coup ils font partie d'une autre enquête. Mais donc malheureusement pas tout le monde est libre, mais au moins les premières 7 personnes oui.
Ok. Voilà. Peut-être juste pour rebondir, on a eu ça aussi très récemment en France. Il y a une personne qui s'est faite arrêter et il est considéré comme lié à l'ultra-gauche radicale violente.
Quand ça Pardon, peut-être t'as pas l'info, désolé, je voulais pas te mettre en galère.
Samedi 4 juillet, donc
la semaine dernière.
Et du coup... c'est une personne qui a posté sur les réseaux sociaux plusieurs fois sa haine de la police. Parce que nous aussi, on les déteste.
Mm-hmm. Ouais. Et on disait qu'il est seul et il a été accusé d'être...
Oui, mais il y avait mentionné association de malfaiteurs alors que c'est un mec tout seul dans les chefs d'inculpation. Et bon, après, il a... De ce que disait l'article que j'ai lu, il a aussi détenu des armes. Après, ils disent pas quelles armes, donc c'est difficile de savoir si c'est ultra extrapolé, enfin si c'est vraiment une personne qui comptait faire des attentats sur des policiers, ou si c'est une personne qui a juste des couteaux chez lui et qui a
deux trois brochures
et qui a dit des trucs pas gentils sur la police sur les réseaux sociaux et que les flics ont pas aimé et qui sont venus faire une perquise. En tout cas, bon. À suivre, je pense qu'on en reparlera avec un tout petit peu plus de détails, peut-être si jamais ça prend des proportions absurdes, grande de répression, mais j'ai l'impression que ça rentre un peu dans la même catégorie que d'autres affaires où on n'arrive pas trop à savoir si... Parce que là, lui, il a été arrêté pour l'antiterror alors qu'il a encore fait aucun acte et que il n'avait pas... Enfin, qu'il était tout seul et que... On n'est pas sûr qu'il soit vraiment lié à un réseau de terroristes d'ultra-gauche à ce jour. Moi, j'avoue, j'ai un peu des soupçons. On va voir ce que dit la justice si on décide de la croire. Mais en tout cas, le point commun avec d'autres affaires, c'est que l'antiterror semble s'ennuyer et du coup, cherche de quoi manger. Ils inventent des trucs ou alors ils commencent à taper sur des cibles qui n'ont pas fait grand-chose, mais comme ça intimide un peu le reste de l'ultra-gauche violente et radicale.
Puis ça justifie aussi les budgets qui leur sont alloués. Oui. Enfin, il y a un truc aussi, parce que les lignes budgétaires, elles sont là, du coup, faut bien travailler. Chiffres, et du coup, quand c'est pas l'islam ou les méchants musulmans, il y a aussi dans l'antiterrorisme aussi des keufs qui travaillent sur l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et du coup, une fois de temps en temps, il faut bien en sortir, une personne comme ça ou un groupe pour justifier les lignes budgétaires, quoi.
Soit aussi, c'est toujours bien d'avoir du terrorisme d'ultra-gauche à mentionner dans les médias, comme ça on maintient en haleine le suspense terrorisme. Je dis ça, peut-être qu'il avait vraiment prévu des trucs, ça reste une analyse un peu hypothétique comme à ce stade d'information qu'on a, mais ça ressemble beaucoup au 8-12 où pour le coup c'était exactement ça la situation. Ou pareil, là j'interprète quand je dis, je pense pas qu'ils se disent explicitement qu'ils vont faire parler les médias, mais de fait les médias s'en emparent et parlent de terrorisme ultra-gauche comme s'il y avait des actes et des personnes qui étaient atteintes alors que les personnes n'ont rien fait jusque là et qu'il n'y a même pas de biens qui ont été attaqués dans l'affaire du 8-12 ou dans cette affaire là du coup ça fait beaucoup de panique pour pas grand chose à ce stade.
Ouais. Et du coup, on sait s'il est passé, il a été placé en détention provisoire ou à la sortie de sa garde à vue, mise en examen, c'est tout. Enfin, c'est déjà... Ok. Si on a fini sur le sujet, on peut passer à la suite de l'émission. Excusez-nous, il fait chaud, on rame un peu pour rendre l'émission dynamique, mais... On va finir sur un témoignage, récit, malheureusement d'expulsion.
C'est un récit qui a été publié donc c'est par un collectif belge, mais on trouvait ça intéressant de raconter un peu ce qui se passe. Donc c'est plutôt pas joyeux comme histoire, parce que ça parle d'une expulsion collective. Mais c'est un truc qui existe et je pense que c'est une violence qu'il faut faire savoir pour que... Parce que moins elle sera invisibilisée, plus on sera prêt à lutter contre, j'espère. Donc voilà, ça a été publié sur le site de Getting the Voice Out, qui est, ça veut dire faire sortir la parole, qui est le blog des personnes qui luttent contre les centres de rétention en Belgique, qui s'appelle les centres fermés. Et on peut commencer à lire. Récit d'une expulsion collective sur un vol militaire vers la RDC. Même si tu cries, ça change rien, c'est là qu'on te sert encore plus fort. Le 21 avril 2026 dernier, un vol militaire vraisemblablement organisé par l'État belge et en coopération avec Chypre, la Slovénie, la Roumanie, la Suisse et la France, décollait de l'aéroport militaire de Melsborek pour expulser une cinquantaine de personnes vers la République démocratique du Congo. L'une des personnes qui était sur ce vol nous raconte le déroulé de cette expulsion. Il a été déporté en RDC alors qu'il vivait depuis 15 ans en Belgique. Il était détenu au centre fermé de Merksplatz lorsqu'il a reçu le ticket lui annonçant le vol. Ouvrez les guillemets. Samedi, on nous a pris à partir de 20h au centre fermé de Merksplatz. On nous a amenés au cachot. On est resté là jusqu'au dimanche. On nous a retiré le téléphone. J'étais dans une toute petite pièce avec juste la toilette. Si tu as besoin de quelque chose, tu appuies sur la sonnette. Il vient et vous parlez. Comme ça, à travers la porte. C'est une prison. Dimanche matin, je suis allé me laver. Puis, on a quitté Merksplatz. L'autre quittait avec moi. Il n'a pas pu se laver. On a pris la route.
Arrivé là-bas, on est resté dans le véhicule. Les surveillants sont descendus, le temps de donner les documents au centre. Et là, on est sorti un par un. Arrivé à mon tour, on est allé dans une petite pièce à côté. Arrivés à la pièce à côté, on nous a dit « Maintenant, là, c'est les vêtements que tu dois porter le jour du voyage. » Je devais choisir mes vêtements pour le vol. Le reste de mes affaires, ils sont partis avec. Ils m'ont dit de me déshabiller et m'ont fouillé, complètement à poil. Ils ont passé un appareil sur tout mon corps, les bras, les jambes. Ils ont dit « Ouvrez la bouche, soulevez la langue », comme si j'avais tué quelqu'un. Comme j'étais déshabillé, ils m'ont donné leurs vêtements à eux. Un survêt, un slip, un pantalon, des chaussettes, des babouches, comme un pyjama. J'étais tout seul dans la chambre où ils m'ont mis. Le téléphone était déjà parti depuis le samedi. Je suis coupé du monde. À un moment, ils m'ont dit « L'avocate, tu peux appeler à tout moment, mais la famille, tu appelles une seule fois. » Depuis le samedi 20h, j'avais pas de nouvelles de ma famille. J'ai appelé ma femme, on n'a eu que 5 minutes. Comme c'était le dimanche, je n'ai pas pu appeler l'avocate. C'était un vol spécial, un vol militaire.
Le mardi, j'étais à la fenêtre. J'ai vu le bus et tout. 40 policiers sont sortis du bus. On nous prenait un par un, on te fouillait. On te fait la fouille encore. J'ai dit, je suis sous surveillance, on n'avait plus rien, plus rien, plus droit à rien. Vous allez fouiller quoi? On te met un gilet comme un gilet pare-balles. Tes deux bras fermés, ça te sert dans le corps. Les deux bras sur les hanches, c'est comme une poche. Tu peux plus bouger, rien, les bras sont fermés. On te ramène dans le bus, chacun avec deux policiers. On nous a rien donné, comme si on partait à la boucherie. On nous disait, restez calme, ça va bien se passer. Quand je suis partie du 127 bis, j'ai entendu les cris des gens. Mais même si tu cries, ça ne change rien. C'est là qu'on te serre encore plus fort. Il y a des gens qui disaient, j'ai mal, ils s'en foutaient. On te laisse crier tant que tu veux, mais si tu cries, on va te faire quoi? On va te menotter. Il y a plusieurs personnes qui ne voulaient pas monter dans l'avion. On les a pris les deux pieds en l'air. 5 policiers, on te soulève, on te porte jusqu'à la place où tu dois t'asseoir. Tu ne peux plus bouger.
On devait être 50 personnes déportées. On a pris de la France, de la Suisse, de Chypre, des Pays-Bas. Tout le monde s'est retrouvé en Belgique. C'est la Belgique qui avait organisé le vol, sûr et certain. Il y avait un agent de l'Office des étrangers qui était là. Il y avait aussi des militaires dans l'avion. Quand l'avion a pris de l'altitude, on a commencé à enlever le gilet. Tu as des policiers à côté de toi, tu peux pas te déplacer. Après, on est arrivé. Les policiers sont restés dans l'avion. Le service d'immigration sont venus me prendre. On nous a mis dans un bus, on est allé dans un bureau, on nous a identifiés un par un. On nous a rendus à l'autorité du Congo. On devait donner une adresse, là où on allait habiter. Il y a des gens, ils n'avaient rien, plus de famille. On a rempli les formalités. Un ami a dû signer une décharge pour que je sois libéré. C'est comme si on te jetait dans le désert. Tu es perdu dans les méandres. Je ne sais même pas par où commencer. On cherche à vous minimiser. On vous met à poil. Ils n'ont même pas tenu compte de mon bilan de santé. Je leur ai dit à très bientôt. La semaine précédant le vol, on apprenait par la presse que la ministre belge de la migration, Anne-Hélène Van Bossuyt, était en visite en RDC dans le cadre d'une mission de dissuasion. Elle n'a pas manqué de vanter la bonne coopération entre les deux États. Je suis déterminé à reprendre le contrôle des flux migratoires de la Belgique. On met en place la politique d'asile et de migration la plus stricte de son histoire, avec moins d'arrivées, davantage de retours et aucune tolérance pour les abus, déclarait-elle. Ces arguments se fondent sur le fait que le taux de reconnaissance de l'asile est inférieur à 15% pour les personnes originaires de la RDC. Elle parle d'une explosion des demandes d'asile de personnes congolaises. Les chiffres ont en effet doublé, mais cela concerne 2500 personnes en 2025. 2500 personnes, c'est 0,021% de la population belge. Le recours à un vocabulaire qui fait peur, en parlant d'explosion par exemple, ne fait que justifier et servir une politique d'extrême droite raciste, classiste et coloniale. En plus, on sait que les arguments économiques ne tiennent pas la route. On sait que leur ignoble dispositif répressif et sécuritaire leur coûte bien plus cher que cela ne leur coûterait et à terme rapporterait d'accueillir décemment les personnes. Van Bossuyt rappelle cependant que les personnes respectant les règles et les demandes de séjour sont les bienvenues pour visiter notre pays. Un vernis d'hospitalité qui laisse sans voix. Ce même monsieur tenait à ajouter d'autres de ses réflexions interrogations concernant l'opacité et l'injustice des procédures préalables aux expulsions. On vous les livre ici. On réouvre les guillemets. Avant tout, je tiens à dénoncer le vice de procédure qui règne en Belgique sur les circonstances d'identification des Congolais dans le cadre de cette procédure d'expulsion qui se fait avec injustice, mépris et méchanceté, bafouant toutes les lois internationales de la migration et de l'éloignement du territoire.
Depuis plusieurs mois passés en centre fermé en Belgique, j'ai constaté que les autres détenus se rendaient à l'ambassade de la nationalité dont ils se déclaraient pour se faire identifier avant l'octroi du tenant-lieu, si celui-ci est reconnu comme sujet de ce pays. Malheureusement pour les Congolais, aucun expulsé ne vous dira qu'il a été conduit à l'ambassade à cette fin. Alors je me pose tant de questions. Sur base de quoi ont-ils pu identifier les personnes qui n'ont pas de passeport congolais ? Puisque parmi nous, il y a des gens qui se réclamaient être angolais. Pourquoi ces deux poids deux mesures dans la procédure ? Pourquoi tant de mépris au peuple d'un pays que la Belgique considère comme pays ami et dont elle convoite le sous-sol depuis des siècles ? Lors de son récent voyage en RDC, la ministre belge de la Migration a parlé d'une nouvelle collaboration avec le service des migrations congolais, ce qui a soulevé de nouvelles questions pour moi. Est-ce que ce service a connaissance de la vie ou l'identification des Congolais de la diaspora ? Si ce n'est pas le cas, ça démontre un manque de respect de la Belgique qui entache de honte les autorités de ce service avec des petits subsides afin de monnayer leur confiance. Bande de cupides. Pourquoi ne pas laisser cette responsabilité l'ambassade qui est le service compétent ? Honte à la Belgique et ses agissements coloniaux. Soutien aux personnes violemment déportées, solidarité avec toutes les personnes enfermées. À bas l'État et ses frontières, stop deportation, liberté de circulation et d'installation pour tous et toutes.
Voilà, bon, c'est un peu
c'est
trash,
chaud.
Mais on...
Ouais. Mais c'est chaud, ouais. C'est...
On trouvait que ça faisait sens de... En vrai, après le... Déjà, ça a été publié récemment et on trouve ça intéressant de le partager, mais aussi on a pas mal parlé du pacte de la nouvelle politique d'accueil de l'Europe qui est en train d'être voté. Bah, peut-être ça vaut le coup de donner un exemple de à quoi ressemble la coopération européenne autour de ces questions-là. Et donc, ça, c'est les expulsions coordonnées de plusieurs États européens, ça existe depuis longtemps et. Ça va pas être changé avec le pacte, mais c'est un peu à l'image de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Du coup, c'est pour ça qu'on vous laisse faire le relais de ce témoignage et de cette personne qui a subi cette expulsion.
Ouais.
Ouais, voilà, c'est la réalité. Hein.
Bah ouais, du coup, grosse pensée à toutes les personnes enfermées au Croix du Canet, enfin dans tous les centres de rétention en France, mais particulièrement à celui du Canet juste à côté à Marseille.
Ouais, on n'oublie pas qu'il y a un CRA ici et qu'il y a toujours des expulsions et on pense à eux parce que la canicule se fait sentir aussi là-bas. Absolument.
Voilà, bah sur ce, force aussi à toutes les autres personnes enfermées. On se laisse avec deux musiques. On commence par une.
Allez, j'ai retenu Quartier VIP, c'était bien Made in avec Sosomanes.
Ouais,
c'est ça. Allez, vas-y, on est parti, on écoute ça et on revient juste après pour faire un petit au revoir avant la semaine prochaine et relancer une dernière musique. Bonne écoute, à tout à l'heure.
À tout de suite.
À tout de suite plutôt.
Ici on fout sa vie en l'air avant même d'avoir l'âge de charbonner. J'habite une ville en bord de mer avec vue sur les bâtiments de mon quartier. Un arabe pauvre est un arabe, un arabe riche est un riche. J'ai résolu l'équation de la France entre midi et 10. Leurs attaques c'est que des guillis comme torturé masochiste. Je veux qu'on me traduise dans toutes les langues, je veux pas qu'on me traduise en justice.
C'est carré.
Dormir dans le même lit superposé, ça veut pas dire qu'on fait le même rêve. Dirigé par des hommes en procès, des eunuques qui tiennent un harem. Plutôt que de régler nos problèmes, ils préfèrent faire taire ceux qui les posent. Mais les épines continueront à être, même quand on tranchera la tête à la rose. Y'a qu'incinéré que je remplis l'urne ou leur formulaire de la sécu. Qui peut empêcher une émeute peut aussi en déclencher une. Sortir du quartier en voyage, on partira qu'une année sur deux. On ne cherche pas de nouveaux paysages, on cherche à avoir de nouveaux yeux. Si on fout sa vie en l'air avant même d'avoir l'âge de charbonner. J'habite une ville en bas.
sur les bâtiments de mon quartier. Mais quand j'ai visité la terre, je me suis mis à aimer encore plus ma cité. Y'a que les riches qui trouvent que la misère est si belle et qu'on devrait être heureux de la chanter.
Quand la justice devient violente, la violence pour nous n'est que justice. J'suis qu'un jeune perdu dans la délinquance, car faire un tour dans nos quartiers est gris.
Je gamberge ce soir en cellule, mon corps regarde la télé. J'aiguise couteau et ma plume, donc mes textes finissent sous scellé. Guidé par la boussole stone, mais finalement j'ai rien trouvé. À part les problèmes de la rue, réglés sans aucune dignité. Je laisse mon cœur dans le vide ordure, je porte mes couilles sur une transac. Avec tout ce que j'ai vécu, prends-moi sur scène, j'ai jamais le trac. Comme une étoile à la mer, je suis balayé par les vagues. HLM proche de la plage, ici y'a du sable sur l'asphalte. Je gamberge, je rentre toute la night. J'analyse mon passé dans le rétro. Tu veux la pure, je donne le price. Bientôt je mets mes albums dans des litrons. Marseille, c'est loin du Havre, mais finalement on est tous les mêmes. À quelques encablures des HLM, où les bacheliers prennent des longues peines.
Ici on fout sa vie en l'air, avant même d'avoir l'âge de charbonner.
Marseille, le Havre.
J'habite une ville en bord de mer, avec vue sur les bâtiments de mon quartier.
Quartier normal.
Mais quand j'ai visité la terre, je me suis mis à aimer encore plus ma cité. Y'a que les riches qui trouvent que la misère est si belle et qu'on devrait être heureux de la chanter.
Et Max, Vita.
Quand la justice devient violence, la violence pour nous n'est que justice. J'suis qu'un jeune perdu dans la délinquance, viens faire un tour dans nos quartiers gris.
Y'a plus d'espoir quand t'es coincé, on va dans le bad. Y'a plus de solution pour faire face aux problèmes. Y'a plus d'espoir quand t'es coincé, on va dans le banks. J'enterre mes émotions avec mes problèmes. Y'a plus d'espoir quand t'es coincé, on va dans le bas. Y'a plus de solution pour faire face aux problèmes. Y'a plus d'espoir quand t'es coincé, on va dans le banks. J'enterre mes émotions avec mes problèmes.
Tour.
T'es toujours là.
Bim bim bim. Ah, il y a un problème avec ton micro. Ouais, c'est bon.
Et vous êtes toujours sur la courte échelle.
Radio Galère
88.4.
Ouais ouais ouais.
Radio contre toutes les prisons.
C'est la fin de l'émission.
J'ai la réponse à ce que tu demandais tout à l'heure. Donc la personne,
la question.
Non, la personne qui s'est faite arrêter pour
potentiel
terrorisme en France pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparation d'un crime d'atteinte aux personnes alors qu'il est tout seul, donc c'est associé avec lui-même, enfin à ce stade il est tout seul, et qui est surtout arrêté pour avoir pris la parole sur, contre la police sur les réseaux sociaux. Il a été arrêté le 4 juillet par l'antiterro, donc le PNAT. C'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que on se rend compte que l'antiterro s'ennuie tellement que elle arrête des personnes qui n'ont pas encore commis des actes terroristes mais qui ont juste dit des trucs sur les réseaux sociaux. Il a été il a été incarcéré le 6 et puis placé en contrôle judiciaire le 8. Donc actuellement il est dehors, quand même un peu enfermé puisqu'il est en CJ.
Ouais.
Mais il est dehors et force à lui pour réussir à s'en sortir. J'espère que on n'en reparlera pas parce que ça va s'arrêter là. Mm-hmm. Voilà, c'était le petit complément d'info sur la question précédente. Voilà.
Merci bien.
Merci, on est très précis à la courte échelle. Bah, et voilà, on a aussi dit à la semaine prochaine.
Ouais, grave. Ouais. Bah ouais, grosse pensée à toutes les personnes enfermées, aux prisonniers, prisonnières. Soit dans les maisons d'arrêt, les centres de détention, les centres de rétention, tout ça, faux prison, faux frontières.
Courage pour faire courage pour faire face. Pour le lapsus. Courage pour faire face à la canicule qui et l'été qui va se poursuivre encore quelques temps, mais ça finira par passer. Donc, gros courage à vous. Et à la semaine pro.
Ouais, grave, on se retrouve dimanche prochain à 19h, toujours avec la même équipe de La Courte Échelle. Et on termine sur une petite chanson de Davinor. Ouais, 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 ça s'appelle Façonne. À dimanche prochain.
À dimanche.
Voilà, ciao, ciao.
J'ai une arme dans la main, mon bébé, la police est en bas. Je pense à te faire l'amour, juste une dernière fois. Mauvais pas si je mens, c'est vrai, j'ai des mauvais côtés. J'ai du bicrave la mort pour me sentir vivant, on où elle est.
Si jamais tu tombes, bien sûr je t'attends. Je sais t'as tort, tu penses à toi, c'est comme avant. Et tu n'as rien à prouver, je sais que c'est toi. L'odeur du charbon sur les draps quand je rentre le soir. Je te sens un peu bizarre. Pourquoi t'es si distant? Bébé, ce soir rêve-moi. Comme si c'est le dernier soir. Je te sens un peu bizarre. Pourquoi t'es si distant? Bébé, ce soir rêve-moi. Comme si c'est le dernier soir.
La police m'a mis sur le bas-côté. J'ai pas eu le temps de te raconter. On se voit au pas lui si tout est froid.
Avec le temps tu deviens méfiant. Quand tu travailles dans les stupéfiants, pas besoin de crier sur tous les toits.
Va falloir que je la façonne.
J'ai le cœur d'un coup la carbone. Pour quelques grammes on en fait des tonnes.
Va falloir que je la façonne. J'ai le cœur d'un coup la carbone.
Pour quelques grammes on en fait des tonnes.
J'ai pensé à tout mon bébé, t'inquiète pas. C'est ce qu'il faut sur le côté si je n'en reviens pas. Réseau sur écoute, j'en peux plus, obligé de raccrocher. J'ai dû rêver de nous pour me sentir vivant, on où elle est.
Des côtés sombres que je maîtrise pas. T'es inconscient, y'a trop des nœuds qui veulent ce que t'as. Et si jamais on tombe, moi je deviens quoi? Je supporterai pas, soit tu t'arrêtes ou on sait pas. Je te sens un peu bizarre, pourquoi t'es si distant? Bébé, ce soir rêve-moi, comme si c'est le dernier soir. Je te sens un peu bizarre, pourquoi t'es si distant? Bébé, ce soir rêve-moi, comme si c'est le dernier soir.
Sur le bas côté, j'ai pas eu le temps de te raconter. On se voit ou pas lui si tout est froid.
Avec le temps tu deviens méfiant. Quand tu travailles dans les stupéfiants, pas besoin de crier sur tous les toits.
Va falloir que je la façonne.